la Ouche Swab, retour vers les heures les plus sombres de notre histoire. 9 novembre 2021, 5 commentaires. Le journaliste indépendant québécois Guy Boulian publie sur son site un document rigoureusement documenté sur Klaus Schwab. Guy Boulian écrit sur son site, ce qui suit est un long extrait d'un article écrit par le journaliste d'investigation John Yves Moore le 20 février 2021, s'intitulant Schwab Family Fallu. J'ai traduit et transcrit ce texte avec l'aimable autorisation de l'auteur, j'autorise bien une telle entreprise, et je vous en remercie. À notre tour, nous souhaitons reprendre cette information car elle est essentielle dans la compréhension des événements qui se déroulent sous nos yeux et surtout qui se préparent en coulisses. John Yves Moore commence ainsi son article. Le vrai Klaus Schwab est-il ce vieux tonton bienveillant qui ne souhaite que du bien à l'humanité, ou est-il en fait le fils d'un collaborateur nazi qui a fait travailler des esclaves, et contribué aux efforts des nazis pour obtenir la première bombe atomique? Cette enquête très fouillée est synthétisée ci-dessous en plusieurs chapitres que l'on ouvre en cliquant sur le petit signe à droite. Origine ashkénaze. Selon Ancestry.com, les parents de Klaus Schwab sont Eugen Wilhelm Schwab, né le 27 avril 1899, décédé en 1982, et la Suisse d'origine juive Emma Gisela Tekelius Schwab, née Kilian, mariée à Karlsruhe en Allemagne le 2 octobre 1926. L'arbre généalogique de Klaus Schwab a été publié dans la Crimeline et Evidence Library gérée par les enquêteurs du site Americans for Innovation. Le quotidien suisse Berner Zeitung nous informe que Eugen Wilhelm Schwab dirigeait une usine de la société suisse Esche, Wissessi à Ravensburg, où Klaus Schwab est né le 30 mars 1938, selon son curriculum vitae publié par le FEM. Des détails sur la famille paternelle de Klaus Schwab sont également divulgués dans un arrêt du tribunal fédéral suisse de 1950, consultable à l'université de Berne. Klaus Schwab se trouve dans l'exécution de la cour avec son frère cadet René mentionné à la page 376 du document. Toujours selon son curriculum vitae, de 1967 à 1970 Klaus Schwab a été membre du directoire à Zurich pour la même entreprise que son père, Esche, Wiss, Essi. Racheté en 1969 par le groupe industriel Wintershall-Sulzer, qui changea de nom en 1983 pour Sulzer-Esche-Wiss AG. Toujours selon Ancestry.com, le nom de famille Schwab a une origine allemande et juive, c'est-à-dire ashkénaze. Par exemple, nous retrouvons les mémoires d'Henri Schwab, né en 1890, un locuteur yiddish du village alsacien de Gerstheim, dans le Bas-Rhin, qui furent publiés dans la revue Yod en 2011. Ou bien encore le rabbin Marvin Schwab qui, en 2013, examinait un rouleau de la Torah qui a survécu à l'extermination nazie des juifs et de leurs objets religieux dans la Tchécoslovaquie des années 1940. Cette ascendance est confirmée par le site Jewish Genealogy in Argentina, Hebrew Surnames, qui écrit à propos du nom Schwab, la grande majorité des juifs argentins descendent d'immigrants venus d'Europe. Ces juifs ashkénazes ont émigré de petites villes ou choutes-telles de Pologne, de Lituanie, de Russie, d'Allemagne, de Roumanie ou d'Ukraine, laissant derrière eux la plupart de leurs parents juifs. Après deux ou trois générations, ces familles juives ont perdu la trace de leurs proches, ayant été sauvées de la guerre, ont émigré vers d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou l'Australie. La Suisse fournissait des armes aux nazis. Au milieu des années 1930, Eschewitz s'est à nouveau retrouvé en difficulté financière. Afin de sauver l'entreprise cette fois, un consortium a été mobilisé pour sauver la firme d'ingénierie en difficulté. Le consortium a été en partie formé par la Banque fédérale de Suisse, qui était dirigée par coïncidence par un Max Schwab, qui n'a aucun lien avec Klaus Schwab, et une nouvelle restructuration a eu lieu. En 1938, il a été annoncé qu'un ingénieur de l'entreprise, le colonel Jacob Schmidin, deviendrait le nouveau président du conseil d'administration d'Eschewitz. Peu de temps après le déclenchement de la guerre en 1939, Schmidin a été cité en disant « Le déclenchement de la guerre ne signifie pas nécessairement le chômage pour l'industrie des machines dans un pays neutre, au contraire. » Dans les années d'avant-guerre des années 1930 qui ont précédé l'annexion de la Pologne par l'Allemagne, l'usine Eschewitz de Ravensburg, désormais gérée directement par le père de Klaus Schwab, Eugen Schwab, a continué d'être la plus grosse employeur de Ravensburg. Non seulement l'usine était un employeur important dans la ville, mais le propre parti nazi d'Hitler a décerné à la succursale Eschewitz de Ravensburg le titre de société modèle national socialiste alors que Schwab était à la barre. Les nazis courtisaient potentiellement la société suisse pour la coopération dans la guerre à venir, et leurs avances ont finalement été réciproques. Jean Schwab, dirigeant d'une société modèle nationale socialiste. De retour dans l'usine Eschewitz de Ravensburg, Jean Schwab était occupé à faire travailler des travailleurs forcés dans son entreprise nazi modèle. Pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, près de 3600 travailleurs forcés ont travaillé à Ravensburg, y compris à Eschewitz. Selon l'archiviste de la ville de Ravensburg, Andrea Schmude, l'usine de machines Eschewitz à Ravensburg employait entre 198 et 203 travailleurs civils et prisonniers de guerre pendant la guerre. Karl Schweizer, un historien local de l'Indo, déclare qu'Eschewitz a maintenu un petit camp spécial pour les travailleurs forcés dans les locaux de l'usine. L'utilisation de masse de travailleurs forcés à Ravensburg a rendu nécessaire l'installation de l'un des plus grands camps de travaux forcés nazis enregistrés dans l'atelier d'une ancienne menuiserie de la Zürichstrasse 16. À une certaine époque, le camp en question abritait 125 prisonniers de guerre français qui ont ensuite été redistribués dans d'autres camps en 1942. Les travailleurs français ont été remplacés par 150 prisonniers de guerre russes qui, selon la rumeur, ont été traités le plus mal de tous les prisonniers de guerre. L'une de ces prisonnières était Zina Jakushulova, dont la carte de travail et le cahier de travail sont conservés par le United States Holocaust Memorial Museum. Ces documents l'identifient comme une travailleuse forcée non juive affectée à Ravensburg, en Allemagne, en 1943 et 1944. Jean Schwab maintiendrait consciencieusement le statu quo pendant les années de guerre. Après tout, avec le jeune Klaus Martin Schwab né en 1938 et son frère René Schwab né quelques années plus tard, Jean aurait voulu garder ses enfants à l'abri du danger qui n'a pas été bombardé par les Alliés. Ravensburg était une anomalie dans l'Allemagne de guerre, car elle n'a jamais été la cible de frappes aériennes alliées. La présence de la Croix-Rouge et la rumeur d'un accord avec diverses sociétés, dont Eschewitz, ont vu les forces alliées accepter publiquement de ne pas cibler la ville du sud de l'Allemagne. Elle n'a pas été classée comme cible militaire importante tout au long de la guerre et, pour cette raison, la ville conserve encore bon nombre de ses caractéristiques d'origine. Cependant, des choses beaucoup plus sombres se préparaient à Ravensburg une fois la guerre commencée. Jean Schwab a continué à gérer la société modèle nationale socialiste pour Eschewitz, et la société suisse aiderait la Wehrmacht nazie à produire des armes de guerre importantes ainsi que des armements plus basiques. La société Eschewitz était un leader dans la technologie des grandes turbines pour les barrages hydroélectriques et les centrales électriques, mais elle fabriquait également des pièces pour les avions de chasse allemands. Ils étaient également intimement impliqués dans des projets beaucoup plus sinistres se déroulant dans les coulisses qui, s'ils étaient achevés, auraient pu changer l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le renseignement militaire occidental était déjà au courant de la complicité et de la collaboration d'Eschewitz avec les nazis. Il existe des documents disponibles auprès du renseignement militaire occidental à l'époque, en particulier le groupe d'enregistrement 226, RG-226. À partir des données compilées par l'Office of Strategic Service, OSS, qui montrent que les forces alliées étaient au courant de certaines des relations commerciales d'Eschewitz avec les nazis.